Vous êtes sur la web radio éducative du groupe Éducation. Il est 13h. Le journal Gloria Adivesodé. 13h, Éducation Info, les titres.
Amis auditeurs, auditrices de la web radio éducative, bonjour et bienvenue à cette édition. Le sommaire. La phase pratique des examens du diplôme de technicien démarre le lundi 26 juillet prochain. À l'issue du tirage au sort des épreuves effectuées au lycée Koulibaly de Cotonou, les candidats composent dans l'épreuve de maquette. Aspirana, on en parle toujours, c'est le coup de cœur du syndicaliste béninois Noël Chadaré qui implore l'humanisation de l'aspirana pour le bonheur de l'école béninoise. Réforme dans les universités publiques, plus rien ne sera plus comme par le passé en termes de gouvernance des universités publiques au Bénin. Le bilan, c'est avec Romuald Logbo dans cette édition. D'autres actualités nationales et la page inter viendront meubler ce journal. Si vous nous rejoignez, à nouveau, bienvenue. On l'annonçait en titre, c'est le lundi 26 juillet 2021 que démarre la phase pratique de l'examen du diplôme de technicien dans la spécialité dessinateur-projecteur en bâtiment. Pour cette importante phase, les candidats proclamés admissibles à la phase théorique seront évalués dans l'épreuve de maquette. C'est le verdict du tirage au sort effectué le vendredi 16 juillet dernier au lycée Koulibaly de Cotonou. Il fallait tirer au sort entre la maquette et le dessin de conception à cette occasion. Au terme du tirage, c'est la maquette qui a donc été retenue. C'est une phase pratique au cours de laquelle les enseignants sont amenés à évaluer avec une extrême rigueur la prestation des candidats de sorte que cela débouche sur le prononcé définitif de leur admission ou de leur échec. L'intérêt à aller vers cette phase pratique, c'est que les enseignants, par cet exercice, donnent l'occasion à la nation de s'assurer du savoir-faire des candidats concernés. A fait savoir à l'occasion Dr Roger Koudou-Adinou, directeur des examens et concours du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Une fois ce parchemin en main, les heureux détenteurs sont directement employables, informe Jean-Pierre Bioyara, qui n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux candidats présents au tirage au sort. Si vous abandonnez le dessin de conception pour dire que vous préparez l'épreuve de maquette, vous vous aurez trompé parce que vous aurez besoin d'une partie de dessin de conception pour réaliser votre maquette. Ne mettez donc pas de côté l'épreuve qui n'a pas été tirée. C'est l'essentiel à retenir des conseils prodigués par l'inspecteur Jean-Pierre Bioyara au candidat à l'occasion. Aspirana, on en parle encore. Il faut impérativement humaniser l'aspirana pour le bonheur de l'école béninoise. C'est le coup de cœur du syndicaliste béninois Noël Chadaré qui ne veut plus de l'expérience qui consiste à attribuer 30 heures de cours à certains enseignants appelés aspirants. 20 heures ou 22 heures, il faut humaniser l'aspirana, plaide Noël Chadaré, visiblement déçu. Les tests disent que c'est 20h à 22h de cours pour les aspirants. Il ne faut pas leur en donner 30. Ils ne peuvent pas supporter. Pleure Noël Chadaré, secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin. Le conseiller pédagogique en français invite les gouvernants éducatifs à revoir à la baisse, conformément aux tests en vigueur, le nombre d'heures exécutées par semaine pour cette catégorie d'enseignants. Il a pour finir émis le vœu de voir leur traitement salarial amélioré. Il faut qu'ils soient dans de bonnes conditions si on veut faire plus que le score de cette année aux différents examens. Il faut leur donner un peu plus de considération, a-t-il souhaité, avant d'ajouter que le nouveau ministre de l'enseignement secondaire est déjà saisi par ce dossier sur la base d'une évaluation du système d'aspirana. Ouvrons la page réforme de cette édition avec Romuald Logbo. Romuald Logbo, plus rien ne sera plus comme par le passé, parlant de la gouvernance des universités publiques au Bénin. Que retenir concrètement de cette réforme?
Gloria Adivesodé, plus d'élection des recteurs et de leurs adjoints dans les universités publiques au Bénin. Dans un processus participatif avec les principaux acteurs, le gouvernement du Bénin a acté la suppression des élections des recteurs et doyens dans les universités publiques. Le nouveau mode de désignation reposera désormais sur un appel à candidature. Ainsi en a décidé le gouvernement du Bénin. Aussi sera-t-il instauré au sommet de la gestion des rectorats un conseil d'administration pour mieux assurer la gouvernance universitaire. C'est l'essentiel du message que véhicule le professeur Dodi Amouzouvi, membre de la commission spéciale mise en place par le gouvernement. Une commission qui a pour mission de proposer un ensemble de réformes aux fins de moderniser les universités publiques au Bénin. Des explications sur le contexte justificatif de cette réforme avec le professeur Dodi Amouzouvi. Il est membre de cette commission spéciale présidée par le professeur Félicien Avlessi.
En raison des élections, on finit par mettre parfois celui qu'il ne faut pas à la place où il se trouve. À la suite ou au lendemain des élections, les universités publiques deviennent un lieu où des collègues ne se saluent plus. Un lieu où des collègues ne se parlent plus. Un lieu où des collègues disent « parce que je n'ai pas voté pour lui, je ne vais pas dans son bureau ». Il est arrivé même parfois où on dit « ah bon, hein, d'accord, tu n'as pas voté pour moi, tu n'as pas fait campagne pour moi, je verrai bien comment tu vas faire pour aller au CAMES ». Ce ne sont pas des propos dignes d'universitaire, dignes du milieu universitaire. Donc ce sont les travers des élections.
La désignation par appel à candidature des recteurs, vice-recteurs, douaniers et chefs d'établissement répond à une procédure que nous décrit ici le professeur Dodi Amouzouvi.
D'abord, les universités publiques seront dotées d'un conseil d'administration de 7 membres. Et il reviendra au conseil d'administration 3 mois avant le terme de lancer l'appel à candidature. Première phase donc. Deuxième, la sélection des dossiers. La troisième phase va être l'interview. La quatrième phase va être l'établissement de la liste de 3 personnalités qui toutes sont à même de pouvoir diriger l'université, si nous sommes dans le cas des recteurs ou des vice-recteurs, ou qui peut diriger la faculté si nous sommes dans le cas des UFR de nos facultés. Cette liste de 3 établie par le conseil d'administration sera transmise au ministère de l'enseignement supérieur qui à ce niveau va requérir l'avis motivé du conseil national de l'éducation. À ce moment-là interviendrait l'enquête de moralité, interviendrait d'autres conditions. Et le Conseil national de l'éducation va transmettre maintenant la liste du méritant ou des méritants au gouvernement. Lequel gouvernement va pour nommer maintenant une seule personne parmi les 3 qui ont reçu cet avis d'enquête de moralité connu déjà au niveau du Conseil national de l'éducation, doit requérir encore l'avis conforme du Conseil national de l'éducation, conformément aux tests qui sont en vigueur.
Que de commentaires au lendemain de l'adoption de cette réforme par décret pris par le chef de l'État. Pendant que des universités appellent au boycott, d'autres émettent des réserves. À l'écoute de ces commentaires, voici la réaction de Dodi Amouzouvi. Il est membre de la commission spéciale qui a travaillé pour l'aboutissement de cette réforme.
Je ne suis pas le gouvernement qui est le propriétaire de l'université publique. Mais je sais que, en tant que propriétaire de l'université publique, c'est à l'employeur de définir les cadres les meilleurs pour une gouvernance. Le problème pour moi n'est donc pas à ce niveau pour ceux qui parlent de boycott. Quant au professeur Bokor, il s'est posé la question en attendant d'avoir les meilleures explications possibles ou en attendant de lire le contenu des décrets, il s'est posé la question de savoir quel va être le lien entre le conseil d'administration et le recteur. Le conseil d'administration, il est là comme l'organe suprême en matière d'orientation de gouvernance. Il reçoit annuellement, il valide les budgets. Il valide les rapports d'activité annuels. Il a au moins 11 missions qu'il assure pour orienter l'exécutif qui devient aujourd'hui le recteur. De ce point de vue, il n'y a aucune contradiction.
De cette réforme, on retiendra essentiellement qu'avec ce nouveau mode de désignation, c'est chacun qui prépare son dossier, qui rédige sa vision et ses stratégies pour le développement de l'université en tant que recteur, vice-recteur, doyen ou chef d'établissement et qui les défend devant des instances et des organisations. organes commis à la tâche. Notons pour finir que cette réforme a été adoptée le 10 juillet 2021 à l'occasion du séminaire national pour le développement de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation.
Ce journal se poursuit avec la nomination du directeur général de l'ADET, Fructueux Sylvain Arrault. C'est le nom du tout nouveau directeur général de l'Agence de développement de l'enseignement technique. La création de cette nouvelle agence a été approuvée par le Conseil des ministres en sa séance du 30 juin 2021. Quelques jours plus tard après sa création, soit le 21 juillet, un autre Conseil des ministres lui affecte un directeur général. Placé sous la tutelle de la présidence de la République, cette nouvelle agence est chargée de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Elle a pour objectif global de coordonner la réalisation des études, la mise en place d'infrastructures et des équipements de formation adéquats, la conduite de l'élaboration des programmes de formation adaptés aux besoins du marché du travail, la formation des enseignants formateurs de qualité, l'accompagnement de l'institutionnalisation d'une gouvernance du secteur de l'enseignement et la formation technique et professionnelle pouvant permettre d'assurer une formation de qualité aux jeunes. À présent, la page inter. Romuald Lobo, bonjour.
Bonjour à vous, Gloria Divessoli.
Quelles sont les actualités hors de nos frontières?
Alors, rendons-nous tout d'abord en Tunisie où la célébration de l'Aïd n'a pas connu une fin heureuse pour cet ouvrier du lycée Ahmed Noureddine en Tunisie. Ce dernier a été suspendu de ses fonctions pour avoir fait usage de l'une des salles de classe du dit lycée comme fumoir dans le cadre de la célébration de l'Aïd. En effet, cette sanction fait suite au constat effectué par le commissaire régional de l'éducation de Sousse, Nejib Zbidi, qui, dès qu'il en a été informé, s'est rendu sur les lieux pour inspecter le lycée. Un mouton et du fumier ont été trouvés dans une salle de classe au dernier étage d'un bâtiment du lycée. À présent, rendons-nous au Québec, au Canada. L'accès aux universités québécoises est en train d'être exempté du passeport vaccinal pour la prochaine rentrée du mois de septembre. Pour le premier ministre du Québec, François Legault, l'imposition du passeport vaccinal pour la prochaine rentrée est une option envisageable. Cependant, au Québec, notre choix premier, c'est d'avoir une immunité collective qui permette de ne pas avoir d'exigence dans nos cégeps et universités, a-t-il précisé. Aussi poursuit-il, la présence d'un passeport vaccinal ne serait effective qu'en cas d'absence d'immunité collective. Une immunité qu'il espère atteindre d'ici la fin du mois d'août, à l'en croire.
Merci Romuald pour le point des actualités hors de nos frontières. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.